Soif d'autre chose.
Soif d'autre chose.
Une émission présentée par les jeunes de la paroisse étudiante de Toulouse.
h sur Radio Présence, bienvenue à l'écoute de Soif d'autre chose, votre émission hebdomadaire pour vous accompagner dans ce début de soirée en partenariat avec la paroisse étudiante. Très heureux d'être parmi vous, heureuse et sainte année, c'est la première émission de l'année 2026 ensemble et de la part de l'équipe de Soif d'autre chose, nous vous souhaitons une heureuse et sainte année remplie de grâce et d'espérance. Au programme de cette émission, une rediffusion d'un entretien que nous avions eu avec des jeunes de la paroisse étudiante justement après les fêtes et les excès sur l'alcool en tant que jeune chrétien. Vous retrouvez l'entretien mené par Léopold et Rachel sur l'alcool en tant que jeune chrétien.
C'est Raphaël, donc ouais, j'ai 25 ans, étudiant en philosophie, et en effet j'étais séminariste sur la paroisse étudiante, et donc j'ai arrêté le séminaire il y a quelques mois, mais toujours investi sur la paroisse jusqu'à la fin de l'année. Je suis frateux, évangélisation, et voilà, merci pour l'invitation.
Avec plaisir.
Pour peut-être commencer cette émission, on peut, dans la Bible, enfin, directement partir dans le vif du sujet. Dans la Bible, Jésus boit de l'alcool. Comment est-ce que, on peut parler de comment est-ce que la Bible parle de l'alcool de manière générale?
Moi, j'ajoutais un truc, c'est qu'il ne boit pas juste de l'alcool, il transforme de l'eau en vin.
Oui.
Carrément, c'est important.
Oui, effectivement. Bon, la première chose qui m'est venue spontanément, c'est les noces de Cana. Et où je me suis dit, il garde le meilleur pour la fin. Voilà, c'est quelque chose qui qui m'a un peu interpellé dans le sens où généralement on va commencer par les choses les meilleures. Mais là, l'idée, c'est non, au contraire, c'est on garde le meilleur vin, qui est le premier miracle de la vie publique de Jésus, pour la fin. Et ça, le fait que ce soit pour la fin m'interpelle. Voilà.
Et comment ça, dans quelle mesure ça t'interpelle, enfin, exactement ?
Mais on pourrait, dans un premier temps, enfin, comment dire, si en fonction de la motivation, si on souhaitait s'enivrer, les personnes qui ont déjà bu plus que de raison ou qui ont déjà bu de manière générale pourraient être déjà rassasiées. Et les personnes qui seraient encore capables de goûter ce vin et de savoir qu'il est bon, finalement, c'est peut-être celles qui en ont consommé en moins grande quantité, mais qui ont aussi un palais éduqué. Donc il y a un peu cette connaissance de soi, une connaissance de ce qu'ils boivent, de ce qu'ils s'alimentent. Et c'est pas seulement de la consommation pour consommer. C'est en ce sens-là où je me dis que garde le meilleur pour la fin, voilà, ça m'interpelle.
Oui, il y a un vrai plaisir à boire et pas juste se mettre une énorme caisse, quoi. C'est vraiment le but, c'est de profiter d'un bon vin, d'un bon produit qui a été... là, on parle de Nazca, on parle de vin, mais donc, oui, d'un bon produit qui a été imaginé, qui a été travaillé. Il y a tout plein de choses derrière, autre que juste l'alcool.
Oui, effectivement. Et puis, il y a aussi le contexte qui m'interpelle. C'est pas boire seul, c'est boire à plusieurs.
Et, pour fêter quelque chose.
Et pour fêter quelque chose. Et le fait de se réunir pour fêter quelque chose, c'est une raison positive en tant que telle. Et c'est pas seulement se réunir seulement pour boire et pour avoir comme seul objectif boire.
Oui, mais du coup, dans ces cas-là, c'est hyper intéressant ce que je t'ai dit tout à l'heure, je trouve. Cette idée de... dans ce cas-là, Dieu nous laisse la possibilité de s'enivrer si on veut, donc avec le vin mauvais au départ. Mais comme c'est quelque chose qui n'est pas mauvais en soi, l'alcool, y a aussi cette possibilité de voir l'alcool et le vin comme quelque chose de positif. Et donc, en profiter de manière raisonnée. Et je pense qu'on peut... On peut continuer là-dessus. Comment est-ce que vous décriveriez une consommation raisonnée de l'alcool en tant que chrétien ?
C'est bon. J'ai bien aimé ce qu'a dit Benoît sur la notion d'éducation. Et en fait, ça vient. On pourrait avoir l'idée en tant que chrétien que, mais comme dans plein de dimensions de la vie chrétienne, spirituelle, que en fait, du jour au lendemain, on passe à la bonne attitude. Ah, je vais agir comme un saint avec notre idéal du petit saint.
Si seulement.
Ouais, mais qui est toujours un truc qu'il faut évacuer, je pense. Et je pense que c'est pareil pour le vin. Donc l'idée de l'éducation, je trouve, est pas mal sûre. En fait, ça s'apprend une consommation juste de vin, une consommation ajustée. Elle va pas être la même pour tout le monde. Déjà parce qu'on ne supporte pas la même quantité d'alcool tous. Là, on parle de vin, mais ça peut être tous les alcools, même des alcools plus forts, plus doux. Et en fait, ça vient avec le temps. Et je pense une chose très importante, c'est apprendre à se connaître soi-même. Et donc, il y a plusieurs éléments. Comme disait Benoît, il y a bien s'entourer. Voilà, s'entourer avec les bonnes personnes pour découvrir, parce que c'est quelque chose qui se découvre. Et aussi, quand même, faut noter que voilà, comme on a dit, l'alcool, ça reste quand même quelque chose qui vient altérer notre comportement. Donc il faut le faire avec prudence. Mais responsabilité et ne pas culpabiliser, c'est-à-dire un soir on a un peu trop bu et en fait on s'en rend compte que ça commence à altérer notre comportement, notre vision, notre manière de parler, et là vient la responsabilité. Mais c'est hyper exigeant en fait pour nous chrétiens, parce qu'en fait la pente est hyper glissante, et je pense que c'est une belle preuve d'amour que nous fait le Christ lorsqu'il nous montre qu'en fait lui-même met à notre disposition une chose qui dans l'absolu pourrait nous entraîner au péché, c'est-à-dire quand même il transforme des jarres entières d'eau en vin, donc c'est des grandes quantités qui peuvent mener plein de gens à l'ivresse.
100 litres.
Et oui, mais c'est des grosses quantités, mais il le fait quand même et il nous laisse la responsabilité ensuite derrière. Peut-être qu'à ces noces de Cana, il y en a qui ont fini peut-être un peu mal, on le sait pas, on n'y était pas. Mais et c'est un beau geste du Christ qui nous laisse cette liberté-là, cet espace d'éducation où en fait c'est à nous de nous prendre en charge. Ça prend son temps. Je sais que moi, voilà, il y a eu des quand j'étais plutôt au lycée. Et mes deux premières années d'études supérieures, où il y a toutes les soirées étudiantes, Bon, en fait,
on découvre.
Voilà, on découvre. Et en fait, on boit, mais vraiment pour se tester, en fait, aller au-delà de nos limites physiques. Et,
et après, on sait.
Le lendemain matin, on sait ce qui se passe. Et en fait, au fur et à mesure, mais voilà, moi, aujourd'hui, j'ai genre 25 ans. Et en fait, très simplement, je sais que boire trop, très simplement, vraiment, parce que l'expérience me le dit, si tu bois trop d'alcool, le lendemain, t'as mal à la tête, t'as une cuite, et puis même sur le moment, tu vas pas forcément. Enfin, tu vas te comporter d'une certaine manière, tu vas parler d'une certaine manière, t'as pas forcément envie, si t'étais sobre, qu'on te voit de cette manière-là. Et donc, bon, tu prends du recul et tu adaptes ta conduite et ta consommation relativement à ça, mais je dirais très simplement parce que tu t'es dit, voilà, quelle est la personne que je veux être en société vis-à-vis de mes amis, de mon entourage. Très simplement.
Ouais, et justement, tu parles du fait que toi, enfin, la. Quand tu bois, ça risque d'altérer ton comportement et tout. Du coup, il faut apprendre à se contrôler, voilà, et à se connaître. Mais comment est-ce qu'on fait quand c'est quelqu'un qui boit beaucoup, qui, alors que ce soit l'alcoolisme mondain en soirée toutes les semaines et tout, qui boit beaucoup ou juste une fois comme ça de temps en temps, comment est-ce qu'on fait pour avec le Christ, avec ce que nous enseigne la Bible et tout, comment est-ce qu'on fait pour faire en sorte que cette personne ne dérive pas justement dans l'excès? Et voilà.
Ouais, je pense qu'il y a une chose très simple déjà, c'est est-ce que c'est un tête-à-tête avec un verre de whisky à la fin de la journée et la personne seule dans son canapé ou sur un fauteuil, ou est-ce que déjà c'est à plusieurs? Et je pense que ça, déjà, ça peut être un premier signe qu'il y a peut-être une fuite en avant ou un déni de quelque chose qui peut aller plus en plus loin dans l'addiction. De manière générale, mais ouais, c'est un peu le fait de rendre quelque chose de banal quotidien avec une fréquence assez importante, enfin de plus en plus quotidienne, du fait que avec le temps l'occasion s'efface. Et ça déjà c'est un premier élément. Et après la première chose, comme dans toute addiction, cette personne à un moment donné, enfin voilà, ça peut amener à l'isolement et tout ça, et la chose peut-être la plus difficile sera de demander de l'aide. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui, je pense de manière générale, demande beaucoup d'efforts, et justement, il est difficile de s'en sortir tout seul quand c'est quelque chose qui est ancré.
Ouais, là on parle d'addiction et de boire tout seul. Il faut bien distinguer quand même ces deux choses-là. L'alcool n'est pas une mauvaise chose, on en parlait tout à l'heure, de boire de manière raisonnable. Quand est-ce qu'on tombe dans l'excès, etc. Ça me paraît assez évident qu'à partir du moment où on commence à boire seul, on commence à être dans l'excès. L'alcool, il est là pour donner un peu de gaieté. Il y a un prêtre qui disait ça dans un short qu'on a regardé pour se préparer. Et il disait, il y a une forme d'ivresse qui est bonne, qui donne de la gaieté. Il y a une ivresse qui est joyeuse. Et il y a une ivresse qui est pas bonne. Et on sait tous, on a tous fait plus ou moins l'expérience de quel type d'ivresse sont pas bonnes, notamment quand c'est boire pour boire. Et voilà, et donc ouais, là on parle vraiment d'addiction, de boire seul, et ça ouais, il faut commencer à faire très attention parce qu'on tombe très vite dans de l'addiction et l'alcoolisme.
Ce qui est un extrême, quand on arrive là, c'est... Mais je pense que c'est pas tant une question de quantité, mais ça peut être aussi une question de fréquence.
Oui,
voilà.
Oui. Et d'occasion.
Et aussi.
Voilà. Mais il y a aussi plein de gens qui boivent jamais seuls. Mais dès qu'ils sont en soirée, oui, ils se mettent une énorme...
Et alors c'est là où justement, enfin, quelque chose qui peut être intéressant de mon point de vue, c'est aussi, est-ce que moi je suis capable de, justement, de dire à quelqu'un, fais attention, tu vas peut-être un peu trop loin, et réciproquement, est-ce que le groupe de personnes avec qui je passe un moment à boire des verres, ou pas seulement entre autres, mais dans l'idée, est-ce qu'ils sont aussi capables de me dire, Benoît, fais un peu attention, t'as peut-être un peu bu le verre de trop. Enfin, voilà, il y a aussi un peu cet état d'esprit qui peut faire office de garde-fou. Et je pense que voilà, il y a aussi un peu une notion d'état d'esprit, d'objectif, sur la raison de se retrouver, par exemple, qu'on peut boire de l'alcool à plusieurs.
C'est un peu délicat, je trouve. C'est un peu délicat à cette position du pote qui te dit attention, c'est un peu le verre de trop. Parce qu'à la fois, c'est un peu. Si je suis la personne qui boit et j'ai un pote qui me dit fais gaffe, c'est le verre de trop. Soit c'est vraiment un bon ami qui me connaît bien et tout, et je suis en mode, ok, Là, oui, il a raison, attention.
Ouais, c'est plutôt
Parfois, c'est un
offensant.
peu un pote et c'est un peu humiliant. Et donc, enfin, ouais, c'est une manière de faire, faut faire
Et en
attention.
même temps, c'est aussi notre
Et
rôle en tant que chrétien parce que c'est la correction fraternelle
c'est
et c'est
ça, ouais.
important aussi, quoi.
C'est une phrase que j'aime beaucoup qui dit Jésus, il est pas gentil, il est bon. Donc, il va te dire ce qui est bon pour toi, il va pas te dire ce que tu as envie d'entendre. Donc, voilà.
Oui, c'est vrai.
Et c'est aussi à nous, chrétiens, d'être bons et pas gentils. Quand quelqu'un fait n'importe quoi, on lui dit.
Mais justement, cette relation de l'alcool avec l'amitié, et est-ce qu'il n'y a pas en fait un risque de... En fait, si à chaque fois on voit ses amis pour boire à des coups et tout, est-ce qu'il n'y a pas un risque justement de confondre le fait de boire avec l'amitié, et du coup, est-ce que on perd un peu ce côté fraternel et chrétien finalement dans nos relations amicales, quoi?
Ça, je pense qu'en effet, c'est un risque et c'est une chose aussi qu'il faut. Enfin, pour le coup, moi, c'est vraiment une expérience que j'ai la chance d'avoir. C'est que c'est marrant, il y a une belle coïncidence parce qu'aujourd'hui, c'est l'anniversaire de mon meilleur ami, mon ami d'enfance, qui lui ne boit pas du tout parce que juste il a jamais aimé ça. Et quand j'ai commencé les soirées avec lui au lycée, vraiment, il m'avait pris avec lui en me disant, mais en fait, on n'a pas besoin de boire de l'alcool pour s'amuser et même pour danser. Alors qu'en fait, au lycée, tout le monde autour de nous, pour s'amuser, pour danser, buvait de l'alcool. Et il y avait ce lien hyper fort entre, en fait, boire de l'alcool et s'amuser. Et une bonne soirée est liée à l'alcool. Et moi, j'ai vraiment eu la chance de grandir sans ça. Et d'ailleurs, quand je l'ai appelé aujourd'hui pour lui fêter son anniversaire, j'avais envie de lui en parler. Je pense que l'émission a fait des liens. Je le remerciais pour ça, de m'avoir fait grandir avec ça. Et donc aujourd'hui, j'ai vraiment la possibilité, moi, vraiment très simplement, quand je fais une soirée avec des amis, de danser, de m'amuser, vraiment de profiter sans qu'il y ait une seule goutte d'alcool pour moi. Ce que je fais très souvent, d'ailleurs, la plupart du temps, c'est comme ça que je le fais. Et donc, en effet, et là, j'en parle un peu autour de moi avec des amis, surtout que là, depuis que je suis à Toulouse, où je suis à nouveau avec des soirées étudiantes, et j'en parle avec des amis pour qui, en fait, c'est inimaginable pour eux, quand je leur parle de « Allez les gars, on met un peu de musique, on danse », et très souvent, la réponse, c'est « Ah, mais attends, mais j'ai rien bu ». Et je trouve ça un peu dommage. Je le comprends, parce qu'on a vraiment grandi avec ça. Je trouve ça un peu dommage, ce côté « je danse pas si j'ai pas un petit peu d'alcool dans
C'est
le
très
sang
français, je
». Et
pense.
je trouve ça un peu dommage. Et je pense il faut, je pense que c'est vraiment, c'est bien de cultiver ce côté, la fête sans alcool, ça peut être bien aussi. Bien sûr, avec l'alcool, la fête est plus folle.
C'est j'allais dire, c'est pas macho.
Mais ça peut être bien de cultiver ça, parce que typiquement, nous, dans la paroisse étudiante, là, récemment, c'était la période du carême, et beaucoup de personnes dans la paroisse, des chrétiens, disaient, bon, carême, pas d'alcool. Mais sauf que le carême, c'est aussi, en général, une période pas du tout festive. Et ce qui est normal, mais aussi, ça peut être bien de développer ce côté festif sans l'alcool. Je sais que moi, par exemple, pendant mon carême, ça n'a pas été des choix du style, j'arrête totalement la musique. Mais ça a été comment est-ce que je profite différemment de la musique, voilà, donc j'ai écouté de nouveaux types de musique que j'écoutais pas d'habitude, enfin bref. Et donc comment avoir enfin l'alcool, évidemment que c'est lié à la fête, et d'ailleurs je pense ça ne devrait que être lié à ça, parce que l'alcool seul ou dans d'autres circonstances, bon voilà,
Quand t'es triste.
ouais, voilà, ça c'est jamais une bonne chose, mais c'est toujours lié à la fête ou au repas. On parlait tout à l'heure du côté un peu bon vivant, l'esprit familial. Voilà, quand il y a un repas de famille, il y a toujours une bouteille de vin à table. Donc oui, c'est toujours lié à ça. Et aussi, mais c'est bien de développer une dimension de la festivité, de l'amitié, qui soit indépendante de l'alcool, passer des soirées sans alcool. Et ce sera pas. Et en fait, il y a une joie à découvrir là-dedans, dans cette sobriété qui est pas moins amusante, bien au contraire.
Merci beaucoup pour ta réponse. Et voilà pour cet échange qui a commencé. On vous propose d'écouter Un vin nouveau de Hillsong, voilà un titre qui va bien dans notre sujet du jour.
Entre tes tendres mains, quand
C'était un vin nouveau de Hillsong. Merci à ceux qui nous écoutent. Pour continuer notre petit débat voilà, sur l'alcool en tant que chrétien et jeune chrétien, moi je voulais partir sur un sujet. C'est vrai qu'en ce moment, depuis quelques mois, quelques années sur TikTok, je vois beaucoup de gens qui se convertissent, voilà, qui s'intéressent à la foi chrétienne et qui disent « Oui, depuis que je me suis convertie, voilà, je fais plus de soirées, je bois plus, tout ça. » Et qu'est-ce que, comment, enfin, parce que on a vu dans le début de cette émission que, en fait, l'alcool n'était pas interdit par la religion chrétienne et qu'il fallait seulement en consommer avec modération. Et très certainement que les gens qui tiennent ce discours-là, c'est juste qu'ils sont pas, ils ont pas encore avancé dans leur foi au niveau où ils comprennent ces choses-là. Et en fait, c'est pas grave du tout. Mais, enfin, notamment, je pense que chez les catéchumènes, il doit y avoir des gens qui se posent ces questions-là. Et qu'est-ce qu'on peut leur répondre, en fait, voilà, sans être, sans leur dire oui, il faut boire, tout ça, parce que c'est pas non plus, c'est pas ça la question. Mais voilà, comment très simplement répondre à ces gens qui sont extrêmement contre l'alcool parce qu'ils sont chrétiens, quoi.
Je pense que le vin est le fruit du travail des hommes. Il y a quelque chose de bon dans le vin. Et je pense aussi que l'alcool est bon quand il participe dans un tout, dans un ensemble. Et justement, où il peut rajouter une petite note. Soit ça permet d'être désinhibé un petit peu et de lâcher un peu prise. Et dans ce cas-là, de peut-être aller à la rencontre de d'autres personnes qu'on ne connaît pas plus facilement. Mais ça aussi, ça peut être aussi révélateur dans le sens où ça peut mettre en relief un plat qu'on a cuisiné. Et ça, c'est quelque chose qui, je pense, est un point positif de boire des bons vins. Moi, je vais vous partager un petit témoignage. Enfin, j'ai le plaisir de cuisiner avec des amis, et justement, bah, y a un peu le fait de se retrouver autour d'une bonne table, de boire des bons vins et de manger des bons plats qu'on a pris le temps de cuisiner. Et en ce sens-là, je pense que quand ça participe à un tout, c'est quelque chose qui est ajusté et qui participe dans son ensemble à passer un bon moment. Et voilà, dans ce sens-là, pour moi, c'est quelque chose qui est, de boire du vin, boire de l'alcool est quelque chose de très positif.
Ok, ben merci. Et moi, enfin, je me posais aussi un peu la question, enfin, en préparant un peu cette émission. C'est vrai que je pense que à l'inverse, il y a aussi des gens qui font partie de groupes d'amis, par exemple, qui font beaucoup de soirées, qui boivent beaucoup et qui, de par leur foi, se sont posé certaines questions et se disent, ah, il faut que je sois plus raisonnable, il faut que je modère ma consommation d'alcool ou que je la rende plus en adéquation avec ma foi. Et je pense que ça peut être difficile quand on a pris des habitudes, notamment avec des amis, voilà, de faire des grosses soirées, de boire beaucoup à chaque soirée, toutes les semaines, ou enfin, je sais pas. Comment dire à ses amis, en fait, bah, j'ai plus envie de boire autant, j'ai plus envie d'être cette personne-là et de faire partie de ce genre de choses, en fait.
Moi, je pense qu'il y a le côté, enfin, un côté à cultiver déjà, c'est vraiment pas de culpabilité. C'est hyper important. Parce qu'en fait, très très souvent, la première réaction qu'on a, en se fixant des objectifs et en voyant qu'on les atteint pas, surtout, bah, comme je disais tout à l'heure, en fait, on les fixe souvent du jour au lendemain, parce qu'on a un zèle, qui est hyper beau en lui-même, mais qui est un peu déconnecté de notre réalité, en fait. Quand on a été habitué à chaque semaine, prendre notre jeudi, notre vendredi ou notre samedi soir, parfois les trois, je sais pas, et à boire des coups avec ses amis, et qu'on voit que parfois, bah, c'est pas forcément cohérent avec ce à quoi nous invite Jésus. Forcément, on a envie que ça change, mais en fait, je pense vraiment la première chose, c'est d'être très patient avec soi-même, d'être compréhensif envers soi-même, parce que souvent, en fait, on croit que Dieu n'est pas patient avec nous, mais en fait, Dieu, il est beaucoup plus patient envers nous que nous-mêmes, et c'est nous qui sommes pas patients envers nous-mêmes, parce qu'on veut absolument correspondre à nos critères. Je pense qu'il faut être patient avec soi, et la pire des choses, je pense, c'est vraiment la culpabilité, parce que la culpabilité, elle vient du mauvais, vraiment. C'est l'accusateur, le diable. C'est lui qui veut qu'on s'accuse nous-mêmes et qui veut nous accuser. Et donc, voilà, accueillir cette patience d'un chemin, c'est-à-dire d'une progression. Voilà, ça va tout doucement. C'est d'abord de se dire, bon, bah, d'habitude, je buvais telle quantité, là, je vais boire un peu moins, en sachant que, en effet, je serais pas sobre, mais en fait c'est pas la question.
Il y a des jours où tu n'y arriveras pas et c'est pas grave.
Oui, c'est ça, c'est des fois on tombe, on chute, mais.
Merci à Léopold et Rachel, tout de suite Richard Anthony avec Je suis amoureux de ma femme sur Radio Présence.
Qu'est-ce qui me prend? Je me sens soudain tout drôle, comme si j'avais un oiseau sur mon épaule. Qu'est-ce qu'il m'arrive aujourd'hui? Je suis amoureux de ma femme.
Bizarre, c'est tout à fait normal.
Comme au premier jour, je suis amoureux de ma femme.
Es-tu vraiment dans son état normal?
J'ai envie de l'embrasser, besoin de la caresser. Je sens me piquer au cœur une merveilleuse et tendre douleur. Comme un collégien, je suis amoureux de ma femme.
Tu racontes, est-il vraiment sérieux?
Je la trouve belle, je la chante sur toute la gamme.
C'est comme ça quand on est amoureux.
Demain je brise les ponts, je prends deux billets d'avion et je vais me l'emmener prendre des vacances en jeu de mariée. Depuis longtemps déjà n'existait plus rien, nous restait seulement la presse en commun. Et souvent s'installait au fond de mon cœur pour un jour de un nouveau bonheur. Qui sait, peut-être nous sommes mariés trop jeunes, et j'avais besoin de vivre ma vie d'homme. De toutes mes idylles j'en ai fait le tour, je sais que c'est elle mon unique amour. Aujourd'hui je suis amoureux de ma femme.
Bizarre, c'est tout à fait normal.
Comme au premier jour, je suis amoureux de ma femme.
Vraiment dans son état normal.
Je me sens prêt à passer
3 jours à rester couché, 3 jours à lui faire l'amour, 3 nuits sans dormir, 3 jours sans sortir. Qui sait, peut-être nous sommes mariés trop jeunes, et j'avais besoin de vivre ma vie d'homme. De toutes mes idylles j'en ai fait le tour, je sais que c'est elle mon unique amour. Quelle chance, aujourd'hui je suis amoureux de ma femme.
C'est déjà la fin de Sauf d'autre chose. Nous avons été ravis de vous accompagner pour votre début de soirée. Tout de suite, vous allez retrouver Des Clés pour Vivre avec Nathalie Cardon. Quant à nous, nous nous retrouvons la semaine prochaine à 19h en direct pour démarrer ce début de semaine et ce début de soirée ensemble. Merci d'être fidèle à l'écoute de Sauf d'autre chose et de Radio Présence. À la semaine prochaine. Très bonne rentrée à vous si vous êtes étudiant et que les partiels recommencent.
C'était Soif d'autre chose, une émission présentée par les jeunes de la paroisse étudiante de Toulouse.